Le chanteur change pas d'avis, il faut qu'il fasse autre chose. Et pour les autres, malgré leur enthousiasme, c'est guère mieux. Par exemple, flûte électrique, là, lui aussi, c'est un sommet. Faut qu'il arrête d'en jouer ou bien qu'il l'avale.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Que serait le cinéma sans la musique? Sans les notes, les images auraient-elles la même saveur? Si Ennio Morricone, John Barry et Bernard Herrmann n'avaient pas existé, les arts médiatiques seraient-ils le 8e art? Le 28 décembre 1895, les Frères Lumière donnaient la première séance publique payante de l'histoire du cinéma. En janvier 1896, le pianiste Émile Malaval vint improviser pour tenter de couvrir le bruit désagréable de crécelles métalliques de l'appareil de projection. Ainsi apparaissait la musique de film au cinéma. Depuis, elle reste indissociable du 7e art. Qui ne se souvient pas d'un air entendu sur le grand écran? Qui n'a pas le souvenir d'un générique télé de ses jeunes années? Quel grand film n'a pas bénéficié du talent de compositeur que furent François de Roubaix, John Williams, Nino Rota ou Vladimir Kosma? Quelle série télé marquante de toute une génération serait encore dans toutes nos têtes si Lalo Schifrin, Dave Porter, John Barry ou Claude Bolling avaient dédaigné le petit écran? Le réalisateur Norman Jamison, en manque d'inspiration lors du montage, Michel Legrand lui proposa de partir en vacances, de laisser écrire 1h30 de musique et de monter ensuite son film à partir de sa musique. Sans le compositeur français, l'affaire Thomas Crown ne serait pas l'une des plus belles réussites du cinéma. Alors merci à Émile Malaval d'avoir accompagné par ses notes de musique l'un des arts les plus populaires au monde. Au terminus des prétentieux, 1089e bande originale ce soir, se demande si les Tontons Flingueurs auraient eu le même succès sans les compositions de Michel Magne. Vous vous souvenez des premières notes du Gugus de Montauban? Sur les 90.0 de Radio B, ce ne sera jamais le cas des chansons des Forbans. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux. Tous les jeudis de 17h15 à sûrement 18h15, voire un peu plus, pour une émission sentant bon la pellicule et les salles de cinéma d'un passé révolu à l'heure où les multiplexes aux tarifs prohibitifs ont eu raison de nos salles de quartier. Certes, le confort était loin de valoir celui de l'amphi à Bourg-en-Bresse et les images devançaient parfois celles de la bande d'après. Le son était ce qu'il était, hein, ni Dolby Surround, ni Dolby Prology, qui est encore moins digital. Mais celles et ceux qui ont connu les salles de cinéma dans les années 60-70 ont encore en tête ces bandes son et ces musiques inoubliables. Alors certes, la musique du 7e art aujourd'hui a encore de bien beaux jours devant elle. Mais comment ne pas rester un vieux con lorsqu'on découvre ou qu'on redécouvre aujourd'hui des films de Sergio Leone, ceux d'Hitchcock, des James Bond, Shaft et autres tontons flingueurs? Certains ne sont pas de cette génération et ont décidé de poursuivre l'aventure à leur façon. C'est le cas de notre invité d'un soir. Avec un nom d'artiste pareil, initial BMB, on aurait dû se douter que lui aussi, il aurait envie de choisir les années 60 et 70 dans le convecteur temporel du doc. Gainsbourg, Brigitte Bardot, tout ça, ça sent bon les années érotiques. On va voir si en musique, il s'est arrêté en 1969, puisque nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B le Lyonnais Maxime Baderspach.
Je le dis comme tu veux. En Alsacien, on peut dire Badoschbach. En fait, il y a plein de manières de le dire. Bonsoir, Michel.
Alias, initial MB, Maxime, bonsoir. Voilà. Hein, bonsoir. Oui, on dirait plutôt Baderspach. En Alsacien,
on dit Badoschbach.
Ah, Bach. Ah, c'est Bach. Ah, c'est pas Bach.
C'est Bach comme le musicien, comme tous ces grands compositeurs que tu as cités.
Le CH, je ne prononce pas par en allemand.
Je suis pas. T'as
pas fait allemand, toi?
Non.
Ah, ça se voit, c'est pour ça. Il me semblait. Alsacien, non plus. Non plus. Là, je
vois. Par contre, je mange du fromage et beaucoup de beurre dans. J'ai la culture culinaire alsacienne, voilà.
D'accord.
Bah, il m'est resté ça.
D'accord. Bah, tu pourrais c'est la même chez nous, donc ça va. Alors, entre Il était une fois dans l'Ouest, hein, attention, entre Il était une fois dans l'Ouest, Easy Rider, La piscine et Yellow Submarine, quel film de 1969 aurait ta préférence ?
Après, ils sont tous différents parce que Easy Rider, il y a ce côté biker, ce côté sauvage. La piscine, il y a ce côté un peu romantique du sud de la France, un côté charmant. Moi, je ne veux pas faire de sélection.
Il était une fois dans l'Ouest. Hein.
Et puis, bien sûr, les BO, enfin, les films de Sergio Leone, westerns, ça fait partie des choses qui ont bercé mon enfance, ouais. Même si, j'ai 35 ans, donc j'ai découvert ces films quand j'étais jeune, mais pas quand ils sont sortis.
Ah oui.
Ça a cultivé mon oreille de musicien en tant que spectateur cinéma.
Et
Ennio Morricone, c'est un compositeur qui m'a vraiment troublé parce que c'est un compositeur qui est très instruit en musique et qui fait une musique qui est d'apparence simple, avec des mélodies qui sont très entêtantes, qui sont facilement mémorisables. Et c'est avec notamment la magie de l'harmonisation qu'il arrive en fait à révéler en fait ces mélodies ce qu'on va percevoir, nous on va entendre la mélodie, mais en fait ce qui fait qu'elle a cette puissance, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on n'entend pas en fait, c'est ce que il est très fort notamment pour ça. Ennio Morricone, c'est...
Mais par contre, ma question comportait un piège, peut-être un piège, parce que j'ai cité quand même Yellow Submarine, bon, qui n'est pas le plus grand film de tous les temps, ça c'est sûr, mais c'est les Beatles.
Mais alors, j'ai pas vu le film Yellow Submarine.
Voilà, mais c'est les Beatles.
Mais c'est un morceau des Beatles.
Oui, mais c'est aussi un film.
Ah oui, ok.
Un film bande dessinée, enfin c'est un mélange des deux, je crois. Ouais, de 68.
Est-ce que c'est pas... Ils auraient fait un film promo pour la sortie de l'album.
J'ai pas révisé mon Yellow Submarine. Mais bon, c'était parce que c'était un piège, effectivement. C'était pour dire... Et les Beatles, quand même.
Eh bien, oui, les Beatles. Tu veux qu'on parle...
Non, pas encore. Oh, bah non, il faudrait... Hein, on n'a qu'une heure. Donc, si en plus on parle des Beatles... On n'aurait pas fini. Hein.
Non, mais moi, je prends tout ça et puis une bière et une boîte de pop-corn et puis je me fais une bonne soirée. Voilà avec
exactement.
Ta proposition.
Voilà, bien. Allez, donc tu seras avec nous donc, jusqu'à à peu près 18h15 et nous évoquerons ensemble la sortie le 3 novembre 2023 de ton nouvel album Bang Bang sur le label Le Pop Club Records de notre ami Alex Katsimi et dans la collection Les séries de velours dédiées aux musiques de films. À tes côtés, eh bien, je te présente mon co-animateur. Hein. Alors si, je te rassure, tous ses papiers sont en règle. Il a même le droit de circuler dans un pays qui sent bon le cinéma. C'est à votre avis, un pays qui sent bon le cinéma, Tonio. Tonio, un pays qui sent bon le cinéma.
Tu veux dire le sud de l'Espagne pour les western spaghetti ?
Le pays, c'est l'Espagne.
Ah, ouais.
Ah, le pays, c'est l'Espagne. Mm-hmm. Mmh ouais. Ah, ça sent bon le cinéma quand même, l'Espagne. Enfin... Ah, on ne se rend pas compte, mais oui.
Complètement.
Mm-hmm. Ah oui. Ouais. Donc, alors, mm-hmm. lorsqu'il était à Paris, son western à lui se passait du côté du désert de... Antonio, aide-le. Le désert de Tabernos.
Ah oui, bah oui. Non,
on parle cinéma ce soir.
Oui,
hein,
exact.
Okay. Non, mais le fameux désert de Tabernos.
Oui.
Et les décors des films
de
Sergio Leone.
Sergio Leone, oui.
Mais oui. Mais lorsqu'il
Parce
a
qu'on parle de western italien, mais qui était tourné en Espagne.
Oui, il était tourné dans le sud de l'Espagne. Ouais.
Voilà, dans le désert de
Tabernas.
Voilà.
Dans la province d'Almeria.
Voilà. Mm. Donc, lorsque Tonio a décidé de se rendre à Roubaix.
Voilà.
Hein, donc, il n'a jamais rencontré.
En Espagne.
Non.
Je voyage beaucoup avec lui.
Donc, il n'a jamais rencontré Mélancolia, ni Sophia, et encore moins Lucie. Non. Il faisait chaud sur le Nil. Et la torpeur du dimanche l'avait rendu quelque peu grognon. Il croise une chouette et deux chats. Hein, et leur dit... Qu'est-ce qu'il leur dirait, à ton avis ? Si tu vois où on veut en venir dans le tour de table.
C'est bientôt dimanche.
Non. Non. Il a dit « Salut les filles ».
Ah, hello, Hello sisters.
Ouais, voilà. Donc, alors quelqu'un lui répond, au revoir paresseux, hein, reste au lit, tu n'auras pas besoin de duvet. À ce moment-là, il est devenu tout violet foncé. Visiblement, ce soir-là, il n'y avait pas que, que des diamants dans le ciel. Hein, Tonio, bonsoir.
Bonsoir Michel. Hein, Maxime, bonsoir. Écoute, t'as encore fait une histoire.
T'as réussi à retrouver un petit peu tes titres de.
Oui, tout à fait.
Voilà, ça va.
Mmh. Oui, mais c'est amusant. Bah, après, ouais, c'est pour amusant, expliquer entre nous, c'est très amusant, mais pour les auditeurs.
Et ouais.
En fait.
Mais comprennent rien, Michel... mais bon, après, c'est pas grave. Hein.
Mais personne ne m'a jamais demandé l'explication.
Hein. Personne n'écoute, donc c'est pas grave.
Mais ce sont les aventures de Tonio. Voilà.
Ouais, magnifique.
Donc, voilà, j'ai toujours des histoires bizarres quand il y a des invités.
Ouais. Effectivement, ce soir, il n'y avait pas que des diamants dans le ciel, hein, Tonio.
Ouais,
hein. Bon, bah, sur ce, que dire de plus, on y va.
Vamos.
Et puis vamos.
En el desierto.
Voilà.
Venga, vamos.
Pourquoi vous me regardez comme ça?
Je vous aime.
Mais vous êtes fou.
François de Roubaix, vous me répondrez non, François, il est Damien. Alors, ce soir, il ne s'agira pas de la Manchester française et encore moins de François Ruffin, qui est originaire de Calais, et pas de Roubaix, mais d'un compositeur de musique de film originaire de, non pas de Roubaix, mais de Neuilly-sur-Seine.
Et pourquoi tu as parlé Damien?
Parce que vous auriez pu me répondre. Je sais pas.
Ben voilà.
Voilà.
Bon, allez, continue.
Ah bon, d'accord. Rien à voir donc avec le Nord. Hein, François de Neuilly donc est le fils de son père Paul, hein, d'Anvers. Rien à voir avec Joseph, hein, qui n'est pas d'Anvers, mais de Nevers. Mais revenons à Roubaix, la famille, pas la ville. Hein. Alors, vous me suivez là, non? Parce que...
Tout rien. À fait.
Ah, vous me suivez?
On se fait un tour de France, en fait.
Ah, bah complètement, ouais.
On reste bien dans le Nord, quand même.
Ouais, un peu, quand même, ouais. Donc, oui, parce que le père de François de Roubaix, Paul, était d'Anvers, en Belgique. Voilà.
Bien.
Mais pas Joseph, qui s'appelle Joseph d'Anvers, mais lui est de Nevers. Mmh. Okay.
Bon, il est français.
Okay. Il est français, voilà. Bon, ok. Tu connais de nom. Non que j'ai dit quoi, moi? Joseph d'Anvers, ça te parle comme nom d'artiste?
Non.
Ah, ça te plairait. Donc, allez, on continue, hein, parce que je vois que je vous ai perdu.
Ouais, puis il n'y a peut-être pas que nous.
Et puis dans le Nord. voilà. Bon, alors, Paul de Roubaix est un producteur et réalisateur de cinéma, essentiellement institutionnel, même s'il a reçu en tant que producteur en 1964 l'Oscar du meilleur court-métrage en prise de vue réelle pour La rivière du Hibou. Quand même, ça jette hein, dans un Oscar quand même. Mmh. La mère de François, Mima Indeli, est cinéaste d'animation. Hein. Donc le cinéma, François baigne dedans depuis tout petit. Alors fan de jazz, il se dirige lui aussi vers une carrière de réalisateur lorsqu'il rencontre Robert Enrico et compose sa première musique de film, Les Grandes Gueules, en 1965. Autodidacte, bidouilleur de sons de génie avec des sonorités nouvelles, François de Roubaix devient l'un des compositeurs les plus grands et les plus demandés par de nombreux réalisateurs. Est prolifique hein, par-dessus le marché, ce qui ne gâche rien, au contraire. Alors si je vous dis Les Aventuriers, Le Samouraï, Dernier Domicile Connu, Boulevard du Rhum, L'Âge Koumoun, Côté 7e Art, Les 5 Dernières Minutes, Les Chevaliers du Ciel, Pépin la Bulle, Chapi Chapeau, Commissaire Moulin, ça c'est pour moi. C'est encore lui, ça vous dit rien, ces dessins animés.
Chapi Chapeau aussi.
Ouais, Chevalier du Ciel.
Moins.
Non. Et puis les 5 dernières minutes, un petit peu.
Mais bon, Maxime est trop jeune pour ça.
Ah bah, n'en parlons pas. Pépin la Bulle, n'en parlons pas. Ouais.
Et Chapi Chapeau aussi, si.
Chapi Chapeau.
Je m'en souviens de ça.
Tu te souviens de Chapi Chapeau, toi?
Non. Je ne pense pas que j'étais.
Non,
bah,
non,
mais
non,
bon,
non.
Avec Internet, on peut retrouver plein de
ouais,
choses.
Ouais. Donc, mais que dire du morceau culte de ce soir? Le générique du film de 1975 de Robert Enrico, son réalisateur de chevet, Le Vieux Fusil. Un chef-d'œuvre marquant et bouleversant pour celles et ceux qui, comme moi, hein, ne connaissaient pas encore Jean Noiret. À l'époque, quand j'ai vu le film, je ne connaissais pas encore Jean Noiret. Jean Noiret, oui, c'est Jean Noiret. Pourquoi je dis Jean Noiret?
Pierre?
Non. Pourquoi je dis Jean, moi?
Le Vieux Fusil, c'était...
Ouais, vérifie voir le prénom. Parce que non, mais oui, c'est Jean Noiret. Et,
attends.
Bien sûr. Hein. Et donc, qui comme moi ne connaissait pas encore Jean Noiret et pas bien Romy Schneider. Ouais, je la connaissais pas bien. Il faut dire que je n'avais pas regardé les Sissi aussi. C'est peut-être pour ça. Hein. Et heureusement pour moi. Oui, Tonio?
J'arrive.
Ouais.
Et tu l'as vu, ça passait à la télé ou c'était
oui,
au cinéma?
Oui, c'est à la télé.
Ouais.
Oui, mes parents ne pourraient pas amener voir ce film-là.
J'arrive.
Voilà. Oui, c'est Jean Noiret.
C'était Philippe Noiret.
Philippe,
voilà.
Oh là là.
Ouais, Philippe Noiret, effectivement. Bon. Remy Schneider et Jean Bouise.
Voilà, Philippe Noiret. Putain, je me disais, il y a un truc qui ne va pas.
Philippe Noiret, oui, il y a voilà, un
truc pas
qui perturbe
mon prénom. Donc, alors, inspiré du massacre d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, et tourné dans le Tarn-et-Garonne, Le Vieux Fusil est l'histoire d'un médecin vengeant la mort de sa femme et de sa fille, sauvagement assassinée par un détachement de soldats SS stationnés dans le château du Petit Hameau, où elles étaient réfugiées. Après avoir vu le film, hein, on n'en sort pas indemne, et la musique y joue un rôle considérable. Alors ce n'est pas pour rien que Le Vieux Fusil obtient le César de la meilleure musique en 1976. Ben, sans François de Roubaix, décédé quelques mois plus tôt, le 21 novembre 1975, au large des îles Canaries, lors d'une plongée sous-marine qui vire au drame. Alors toujours à l'affût de nouvelles sonorités, il a innové dans le domaine de la musique de film en utilisant des instruments exotiques et expérimentant des musiques électroniques. Ces mélodies sont aussi connues des nouvelles générations, hein, grâce aux musiciens actuels qui samplent et mixent François de Roubaix, hein, par exemple Robbie Williams, les Troublemakers, Lana Del Rey et plein d'autres que je ne citerai pas parce que je ne les connais pas. Donc il est juste mort trop tôt pour avoir égalé Sergio Leone ou John Williams au firmament des compositeurs de musique de film. Maxime, qui est avec nous. J'irais à Roubaix est un hommage évidemment à ce compositeur de génie. Peux-tu nous parler de lui? Qu'a-t-il apporté à la musique, François de Roubaix?
Ben, moi, ce que j'aime bien chez François de Roubaix, c'est que contrairement à ses camarades de l'époque, c'était un bidouilleur et autodidacte. Alors que dans les années 60-70, on avait beaucoup des compositeurs qui sortaient du conservatoire, les compositeurs de musique de film. Et lui, il est arrivé avec... voilà, il a ce côté Je me débrouille avec ce que j'ai et en fait ça se retrouve dans la manière de composer, dans les sonorités ou le générique de Chapi Chapeau, voilà, qui est complètement original. En fait, c'est, on n'imagine pas quelqu'un qui sort du conservatoire faire une musique aussi ouais. décalée. Ouais. Où il avait samplé sa voix, il avait changé la vitesse de lecture des magnétos à bandes, et ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une voix d'enfant quand on accélère. Et
en fait, c'est sa voix. Ah ouais. Ouais.
Et donc, j'aime beaucoup François de Roubaix. Je connais finalement pas très bien les films pour lesquels il a fait la musique. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a apporté peut-être une fraîcheur à quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Comme tu l'as dit, ouais, il a expérimenté plein de choses. Il est originaire du jazz et il était curieux de tout. Et il a fait aussi des musiques électroniques. Il utilisait des synthétiseurs. Il y en a un appareil qui va ressortir qui s'appelle le VCS3 qui permet de faire des bruits de l'espace.
D'accord.
En tournant des boutons avec des de faire des bruits tout bizarres, et lui il arrivait à faire de la musique avec ça.
Donc François de Roubaix, donc connu, tu disais, pour avoir travaillé en home studio, jouant et enregistrant tous les instruments d'une même partition sur son multipiste. Alors toi aussi tu travailles comme lui?
D'une certaine manière, oui. En home studio, voilà, où je fais pas mal de choses par moi-même. Et puis, je fais appel à des amis qui ont du talent et qui méritent d'être mis en lumière. Et puis, j'ai eu un parcours de groupe avec un groupe de rock. Et après, moi, j'ai évolué par la pop musique. J'ai eu cette mon affinité avec la musique de film m'a orienté vers ce projet d'album de musique influencé par la musique de film des années 60-70. Et c'était un peu compliqué d'avoir un groupe, puisque c'est des musiques qui font appel à beaucoup d'instruments différents. C'est assez pratique d'être en studio et de... tu fais bien de commencer par parler de François de Roubaix, parce que je m'identifie pas mal à lui, justement, et par ma manière de travailler qui est... moi aussi, je suis un autodidacte. Et y a ce côté un petit peu bricoleur du son. Mmh. Et puis on essaye et puis on verra ce qui va se passer.
Bricoleur ou couleur ? Parce que moi, dans bricoleur, il y a aussi couleur. C'est couleur de son aussi, non ?
Couleur, c'est-à-dire copier-coller ?
Non, tu colles des sons. C'est pas que du bricolage, c'est aussi du collage.
Oui, c'est du collage. On fait du copier-coller sur ordinateur. Bon, après, autant je travaille sur des appareils à bande que sur un ordinateur. Mais c'est une cuisine, en fait. Hein. Ouais. On a des ingrédients et puis on les mélange. C'est de la créativité pure. Ouais.
Alors, François de Roubaix était compositeur, musicien, auteur, réalisateur, tromboniste, guitariste, percussionniste, claviériste, harmoniciste, chanteur et contrebassiste. Toi aussi, tu es réalisateur et tromboniste ?
Je ne fais pas tous ces instruments. Non, j'en joue pas mal. Après, j'essaye de pas non plus m'éparpiller davantage, parce que je suis déçu quand il faut un temps pour arriver à maîtriser un instrument quand même. Et je préfère faire appel à des amis qui ont un certain talent et puis partager un moment de musique. J'essaie de faire déjà basse, clavier, guitare, et c'est bien.
Mm-hmm. Tu pourrais être aussi réalisateur ?
Réalisateur ?
Pas forcément dans la musique, d'image. Là, on parle plus d'image que de son, là.
Peut-être. Alors après, je le suis en amateur, ou je l'ai été en amateur, parce que je ne sais pas si tu as suivi mon actualité des deux dernières années, où j'ai réalisé un film amateur avec un scénario de film d'espionnage. Ouais. Je me suis confronté à cet exercice de composer une BO de film sur un film amateur.
Mais qui existe alors ? Ce film amateur existe ?
Ouais, il existe, mais il faut quand même bien le chercher.
Il est sur Internet ?
Il n'est pas disponible.
Ah oui, c'est pour ça. Ouais.
C'est un petit peu... Voilà,
oui, il y a manqué un bout là.
Ça reste confidentiel, ouais.
D'accord.
Par contre, la musique, ouais, elle est disponible en streaming. L'album s'appelle Le complot de la théorie. Mm-hmm. Enfin, c'est d'ailleurs le nom du film. Et donc après j'ai beaucoup d'idées en musique et j'ai le sentiment de pas avoir le temps de pouvoir finir tout ce qui est ouvert. Donc le réalisateur pas pour le moment.
D'accord. Bien. Allez, il est l'heure d'aller non à Roubaix mais à Bourg-en-Bresse pour une Perona. Les tontons flingueurs nous attendent. Ben, ils sont au terminus des prétentieux. Il est 17h passé de 41 minutes sur les 90.0 de Radio B. Ou alors, Tonio ?
Ou alors, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin, si vous êtes avec nous depuis 9h, ou celle du samedi après-midi, 14h.
Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios le Lyonnais Maxime Maxime, et son projet initial MB, à l'occasion de la sortie le 3 novembre 2023 de son nouvel album « Bang Bang ». Dans le cadre des séries de velours du label Le Pop Club Records de notre ami Alex Cassimi. Il sera question donc de musique de film d'un âge d'or bien révolu, celui des années 60-70, mais pas seulement, et que tu as bien voulu nous faire revivre le temps de 11 instrumentaux. Alors, toi, entre la pop, le rock et les musiques de film, par lequel as-tu commencé par lequel as-tu débuté avec ta guitare à l'adolescence ? Bon, ça... Pour la musique de film, ça, effectivement. Ouais.
Oui, c'est, à 18 ans, on a cet esprit rebelle sauvage qui nous oriente plus facilement vers quelque chose de bruyant et d'énergique. Donc j'ai commencé avec ma guitare sur mon lit, composé du rock. Et puis après, j'ai créé un groupe qui s'appelait les Small Ties.
Voilà.
On a quand même une existence d'une dizaine d'années. On a fait beaucoup de concerts. Mm-hmm. Et c'était une super expérience. Sur 10 ans, il se passe plein de choses. Donc, c'est plein de rencontres humaines, musicales, des rencontres de gens dans les concerts, de personnes qui nous suivent. Et tu fais partie de ces personnes qui ont diffusé la musique des Small Ties qui ont suivi mon parcours, on va dire, d'artiste depuis 10 ou 15 ans.
Ouais, depuis 2007, j'ai vu ça. Ça a commencé en 2007. C'est ce que tu dis sur ta superbe bio.
Ça fait 15 ans, 2007.
Alors,
c'est ça.
Ouais.
Donc,
bientôt 16 ans. Bientôt 17.
Non, mais en tout cas, moi, je suis ravi d'être là ce soir parce que, en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre.
Ouais,
et ça fait en fait 15 ans que tu m'envoies des mails en disant on a diffusé tel titre des Small Ties, tout ça.
Il fallait attendre des musiques de film pour qu'on t'invite. Alors pourquoi des fois le mystère est là. Mais bon, on aurait pu t'inviter plus tôt parce que après ce projet des Small Ties, tu es parti en solo avec ton projet initial MB.
Ouais, c'est ça. Voilà. Après, je me suis orienté vers la pop. Après avoir fait 10 ans de rock. J'avais le sentiment j'avais envie de changer et notamment de faire des morceaux avec d'autres instruments que basse, guitare, batterie, de rajouter des claviers et d'avoir des arrangements qui sont un petit peu plus riches sur le plan harmonique. Donc j'ai fait 2 albums sous mon nom, Initials MB, qu'on peut trouver en streaming sur les plateformes habituelles. Et donc, c'est des albums qui sont de pop tendance années 60, influencés par les années 60 et la pop anglaise. Donc, c'est de la musique chantée en anglais, qui mêle plein d'instruments. Voilà, que dire, il y a deux albums qui peuvent s'écouter.
22 en 2016 et Working en 2020, sur lesquels on retrouve quand même deux personnes qu'on connaît bien ici. Tonio,
oui,
à ton avis, si on parle de pop 60s...
Ah, Wendy Martinez?
Non, des hommes.
Ah, des hommes, pardon.
Des hommes.
Comme les Trumpets, Frenchiness.
Des Sly et Petit Beau.
Voilà.
Voilà. Hein,
donc, oui, c'est des copains musiciens. Et ben, dans le réseau, enfin, globalement, dans la musique, il y a des réseaux. Dans le réseau pop à Lyon, on a vite fait de croiser les mêmes têtes quand on sort au concert. Et puis finalement, on arrive à se lier d'amitié parce qu'on a une affinité commune autour de musique qui nous plaise. Ouais. Et puis ça donne naissance à des rencontres musicales, même à des projets. Et donc Sly et Thibaut, qui sont deux copains et super artistes, ont participé à ces albums en tant que choristes.
Ouais. Donc en 2022, donc, tu disais, sorti du complot de la théorie, hein, une bande-son d'un film amateur dans un esprit de film d'espionnage des années 60-70. Là, c'est le début de tes envies d'écrire des BO de films imaginaires?
Non, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait... presque 10 ans que je fais ça.
Parce que tu fais ça même, je dirais pas à titre professionnel, mais presque, non?
Eh bien, en fait, oui, parce que c'est, tout le monde n'est pas forcément au courant de la manière dont tu peux travailler pour l'image. En fait, quand on parle de musique de film, en fait, le terme générique, c'est la musique à l'image. Parce qu'il y a la musique à l'image, ça veut dire la musique de documentaire, la musique de pub, la musique de film. Donc finalement, la musique de film, c'est une partie de la musique à l'image. Et tu peux travailler en fait en direct avec des réalisateurs. Tu peux aussi travailler en direct avec des agences de pub. Moi, c'est ce que je fais. Et tu peux travailler avec des éditeurs. Les éditeurs, en fait, c'est des intermédiaires entre les producteurs, réalisateurs et puis les artistes. Et donc, moi, je travaille notamment avec Sésame, qui est un super éditeur français historique, on va dire, et qui fait partie des derniers indépendants, qui n'a pas été racheté par une multinationale ou un label major. Et donc, c'est une équipe qui est super, qui font en fait, qui ont des briefs sur des thèmes. Et qui vont après faire appel à des compositeurs. Donc en fait, tu es compositeur et producteur, c'est-à-dire que tu reçois un brief sur une thématique. Et donc ton travail, c'est de composer la musique et de l'enregistrer, la produire et la fournir à cet éditeur qui après lui va la rentrer dans sa bibliothèque qui après va la proposer à des personnes qui ont besoin de musique à l'image.
D'accord. Voilà. Donc, les BO, ça fait un moment que tu en écris sans le savoir.
Je t'ai perdu, une réponse trop longue.
Si, c'est bien. Donc, on est en 2022. Et voilà qu'arrive un an plus tard les séries de velours du Pop Club Records. Voilà.
Oui, après, dans la continuité, oui. Est-ce qu'on pourrait parler de French Cinema Soundtrack? Est-ce que tu as suivi ça, Emma? Alors, en fait, chez le... tu as cité les tontons flingueurs, et en fait, donc...
Ah, oui.
Le Pop Club...
Ah oui, oui, t'as raison, oui. Ça fait longtemps qu'il propose des diffusions... Oui, vas-y.
Pour faire court, ça va être long, mais en fait, Alex Cassimi, qui est en fait un musicien qui a aussi joué avec Thibaut à Lyon dans des groupes de pop, le chanteur-guitariste des Rebels of Tijuana, un super groupe franco-suisse à aller écouter, et qui a monté ce label au début, on va dire, par passion, comme ça, pour son projet, et puis après, ça s'est étendu à plein de groupes, et aujourd'hui, à plus de 60 sorties, notamment vinyle. Donc ça devient un label important et qui a, on va dire, un univers bien identifié à la musique pop, rock et notamment rétro. Ouais. Et dernièrement, ils ont sorti une collection qui s'appelle French Cinema Soundtracks. Et en fait, ils font des rééditions de BO de films des années 60 qui ont ou n'ont jamais été ressortis.
Les Tontons Flingueurs,
et
par exemple.
Et donc, les Tontons Flingueurs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Le Magnifique qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est en rupture de stock, qui est magnifique. Le film est super Et la BO est magnifique. Ouais. Et il y a coup de tête. Il y en a,
ouais,
il me semble, un quatrième.
Ah oui, quand même.
Et donc, en fait, voilà, dans la continuité de ça, Alex, donc, du Pop Club, le patron du Pop Club, est en contact avec des artistes qui n'étaient pas forcément sur le label. Moi, ça faisait longtemps que je lui envoyais mes albums pour lui dire coucou, est-ce qu'on pourrait travailler un jour ensemble ?
Ah ouais, et non.
Et puis, en fait, il y a toujours des contraintes d'agenda. Comme il me disait, c'est difficile de pouvoir... il ne peut pas signer tout ce qu'il voudrait. Il reçoit trop de propositions. On a réussi à s'accorder parce qu'en fait, il y a plusieurs artistes autour de lui qui avaient un projet comme moi, instrumental, qui ne savaient pas comment faire exister parce que la musique, c'est quand même un secteur qui est difficile. On va dire c'est difficile de vendre des albums, hein, tout simplement, de vendre des vinyles. Les auditeurs ont l'habitude de consommer de la musique en numérique. Mmh. Et donc, de la musique instrumentale, ça rajoute encore une contrainte parce que, on écoute de la musique, on a tendance à écouter de la musique avec des paroles, quelque chose qui soit chantant. Ouais. Et donc, il a eu l'idée de créer en fait cette collection, la série de velours, avec trois artistes du label qui ont chacun composé leur BO de films imaginaires. Donc, c'est des musiques instrumentales avec trois univers différents. Donc moi, c'est plutôt les BO, enfin influencé par les BO de films des années 60-70. On a Anthony Savary qui a fait une BO plutôt surf musique,
French Riviera. Ouais. Voilà.
Et puis avant, c'était Tendance. Qui a fait une musique légèrement plus électronique.
D'accord.
Mais toujours avec ce côté rétro, super bien fait. Donc en fait, les trois, on va dire, sont un peu dans le même univers, mais avec quand même quelque chose de très singulier. Avec la thématique de musique instrumentale. Voilà.
Donc le volume 1, c'était cinéma. Le volume 3, c'est French Riviera. Et le volume 2, entre les deux, tous les trois sont sortis à l'automne 2023. Eh bien, c'est Bang Bang.
Voilà, entre les deux, c'est le Bang Bang.
Ouais. Le 3 novembre 2023, on va découvrir un premier morceau et puis on va en parler après. Tonio, c'est à toi.
Allez, on va commencer par le morceau Somebody Say par Initials MB. Un extrait de... Vous dites Bang Bang ? Allez, j'aurais dit Bang Bang, mais non, Bang Bang.
Oh,
Somebody Say, un titre extrait de l'album Bang Bang d'Initials MB.
Donc, qui fait référence à David Axelrod ? Enfin, qui fait référence...
On va dire que l'atmosphère était inspirée par ce compositeur que j'adore.
Qu'on connaît pas, forcément de nom, non ?
J'ai pas compris.
Qu'on connaît pas forcément de nom.
Oui, effectivement. Ça fait partie de ces compositeurs de l'ombre ou de ces artistes arrangeurs.
A priori, ce serait Ennio Morricone du rhythm and blues, le Phil Spector du jazz, quand même.
Ouais.
Donc, c'est un monsieur, mais oui, musique de film, on pense à, évidemment, mais jamais à lui.
En fait, il n'a pas fait beaucoup de musique de film. Il composait pour des artistes, mais il a fait de la musique instrumentale. Donc, ça peut porter à confusion.
D'accord, ouais. Ok. Bien, donc, le morceau est extrait de ce Bang Bang sorti le 3 novembre 2023. Un son pas rétro, mais des instruments qui le sont un peu. C'est ça, en fait. En fait, ce que tu veux pas, c'est qu'on te dise que tu as fait de la BO des années 60-70. Un son moderne, mais avec des instruments qui ne le sont plus depuis longtemps.
C'est une vaste question. Ouais. J'ai enregistré la plupart des instruments chez moi dans mon studio avec effectivement un équipement ancien. Parce que ça donne une couleur, les vieux amplis, les vieilles guitares, un orgamon. Ouais. Et après, en termes de production sur le rendu, c'est marrant que tu me dises qu'il y a un son moderne. Moi, ça me dérangerait pas qu'on me dise t'as fait un copie-co. Comment dire ?
Non, mais ce que tu voulais pas, c'est qu'on te dise. T'as fait de la musique des années 60-70, t'as voulu garder le son de l'époque, mais est-ce que c'est exactement le même ? Voilà, tu peux pas refaire le même.
Il est
forcément un petit peu actualisé quand même. Je pense à quelques sons de guitare qu'on retrouve pas dans les années 60-70. Il y a quelques guitares qu'on retrouve pas, je trouve.
Peut-être. Ah oui, mais alors
guitare trop électrique.
Ah oui, ça serait intéressant qu'on en parle en détail.
J'ai lu quelque part, donc je ne sais pas pourquoi je te dis ça, j'ai lu quelque part, ouais.
Ah oui, je pense que si c'est à la manière de travailler. C'est que si tu veux vraiment avoir le son exact des années 60, il faut faire comme à l'époque. Enfin, on ne peut pas tricher. Et quand tu utilises un ordinateur pour faire... sur bande, en fait, le résultat n'est pas le même. Donc, je pense qu'il y a aussi une contrainte technique qui fait que c'est différent. Et sur les techniques d'enregistrement, si tu veux, ce qui caractérise aussi la musique des années 60, c'est qu'elle était beaucoup jouée par des musiciens en live. Il y avait des musiciens de studio et puis tout le monde jouait en même temps. Quand tu dis en live, c'est pas dans un concert.
Ah ouais.
Et aujourd'hui, c'est plus rare parce que c'est plus compliqué d'avoir, de louer un gros studio pour avoir plein de musiciens. Et que c'est plus simple de faire des choses par petits bouts chez soi. En tout cas, pour te répondre, oui, simplement, moi, j'ai vraiment une grosse affinité avec le son des années 60. Donc, pour moi, c'est naturel de retrouver ce son-là avec les instruments de l'époque.
En tout cas, Bang Bang, c'est un véritable hommage au cinéma des années 60, aux musiques des cinémas des années 60 et 70. Là, oui.
Oui, tu revendiques, tout à fait. Ouais. Ah oui, tout à fait. Oui, oui.
Ouais.
Je revendique. Et puis, quand on lit les titres de l'album, on se rend compte que, je ne me cache pas. Quand tu citais Jiré à Roubaix, on sait à peu près où on va. c'est un hommage.
Ouais, alors, justement, ces titres, on peut trouver. Jiré à Roubaix, c'est clair. Mais par exemple, le Fuzz du dimanche. Ça m'a fait penser à La Femme du dimanche, ça doit être un film, mais peut-être aussi au film du dimanche, le dimanche soir, qui avait son téléphone soir.
Oui, en fait, c'est
quoi
c'est
le fuzz du dimanche, qu'est-ce que tu voulais dire par fuzz du dimanche
Dis-toi bien.
C'est un mélange de. Là aussi, c'est du collage, là.
Oui, mais alors dis-toi bien que le choix des noms, des fois, il n'est pas aussi réfléchi que ce qu'on pourrait penser. Parce que, moi, je compose beaucoup. Et puis, quand il faut choisir le morceau, en fait, c'est le moment où tu vas exporter. Tu vas bosser 5 heures ou une journée ou 2 jours et tu as la tête dedans.
En fait, c'est le premier morceau qu'il a qu'il a choisi le dimanche.
Non, mais en fait, au moment de choisir ton nom, tu es fatigué. Des fois, tu prends ce qu'il y a de plus simple. Donc, quand c'est un morceau chanté, tu vas prendre souvent les paroles qu'il y a dans le refrain. Et puis ben là, c'était un dimanche, mais en fait, il y a ce truc, ça m'a fait marrer parce que moi, je suis un fou de fuzz. La fuzz, c'est un effet de guitare qui est issu des années 60 et qui est encore utilisé aujourd'hui, mais qui est assez caractéristique de certains genres de musique. Et moi, j'adore ça. Donc, on le trouve bien sûr sur ce morceau. Et donc, on parle, comme tu dis, en fait, c'était un dimanche. Et puis, il y en a, ils te disent, je suis habillé, c'est la tenue du dimanche. Ben, moi, ma tenue du dimanche, c'est la fuzz, tu vois, c'est ce son, c'est ce truc.
Ah ouais.
Et puis, ben, après, chacun se fait son histoire. Je veux pas non plus trop me prendre la tête sur des noms. Alors, des fois, il y a des évidences sur des noms.
Torpeur sur le Nil, bon, ça fait penser à Mort sur le Nil.
Ouais, éventuellement, ouais. Mais après, c'est aussi c'est l'atmosphère qui suggère le morceau Torpeur sur le Nil. C'est, si vous voulez aller écouter, chers auditeurs. Donc, autant il y a... Enfin, tu me diras, oui, c'est sur des morceaux instrumentaux. C'est l'atmosphère suggérée qui va inspirer un nom. Ou sinon, ça fait penser à quel film ou quel autre compositeur.
C'est ça, voilà. Sophia sous LSD, alors Sophia, c'est Sophia Loren.
Chacun fait son chemin.
D'accord.
S'invente son histoire. Après,
en tout cas, LSD, c'est les Beatles.
Non. Il y en a, c'est plein d'artistes des années 60 qui ont expérimenté des choses avec des drogues et ils font ce qu'ils veulent. Mais non, ce morceau, il est psyché. C'est avec des cris qui sont hyper tiraillés. Enfin, c'est donc pour moi ça. Allez, ça marchait.
Ouais, d'accord. Bon, évidemment, la présence, l'importance des chœurs, mais ça, c'est
aussi... Ça, c'est ma culture des années 60.
Ouais, c'est ça,
Et ça, c'est beaucoup perdu, l'usage des chœurs, comme on pouvait avoir dans la soul, la pop.
Ah ouais.
J'avais vu un documentaire super chouette sur Arte. En fait, c'est les choristes, fin des années 70, elles n'avaient plus de travail. Mais c'est bête, mais on n'y pense pas. En fait, début des années 80, les claviers ont remplacé les cuivres. Enfin, les synthétiseurs ont remplacé les cuivres et les choristes. Et si tu y réfléchis, en fait, on a perdu ça. Et j'aime beaucoup les chœurs parce que, en fait, on peut travailler l'harmonie d'une manière assez intéressante et faire révéler la mélodie, comme je parlais un peu des New Morricone et des arrangements. Quand tu as une mélodie de chœur, si tu as trois voix de chœur, ils ne vont pas chanter tous la même chose. Il y en a qui vont monter, qui vont descendre, et ça va suggérer une atmosphère que je trouve intéressante.
Les films et les musiques... Parce que sur Internet, on retrouve la liste des morceaux et puis les influences ou les influenceurs de tes morceaux. On trouve pas mal de compositeurs italiens.
Oui,
pas mal quand même. Parce qu'il n'y a pas uniquement que Ennio Morricone, quoi. Et Gainsbourg,
Bruno Nicolai, Stelvio Cipriani, Stefano Torosi.
Voilà. Gianfranco, Gianpiero Reverdi, il y a quand même pas mal d'Italiens.
Mais je sais pas, j'aime beaucoup la manière dont ils s'expriment en musique et dans la musique de film, les Italiens. Il y a quelque chose de très, très romantique, avec beaucoup d'usage de cordes et de clavecin. J'étais content de pouvoir mettre un vrai clavecin, enfin ça s'appelle une épinette.
Ouais, l'épinette.
sur cet album. Ouais, je peux pas l'expliquer.
Bon, en tout cas, tous des artistes, des auteurs, des compositeurs des années 60-70. Tous morts
Pas encore.
Ouais, mais ils sont plus tout jeunes, hein, je pense, j'imagine.
Ils ont tous au moins 80 ans. Je t'avoue que j'écoute pas. En fait, j'écoute plus ce qu'ils faisaient à l'époque que ce qu'ils pourraient faire maintenant.
Ouais. Bon, T'es allé voir les parce que maintenant c'est un peu la grande mode de tous ces ciné-concerts avec un grand orchestre pour des. Ennio Morricone l'a fait, hein, il y a récemment
oui,
à Lyon.
Oui, Ennio Morricone qui était passé à Lyon.
Ouais, John Williams. Enfin, c'est peut-être pas lui qui est passé, mais bon, voilà, toutes les musiques de ces compositeurs qui reviennent sous forme de, bah, ouais, de ciné-concerts ou de concerts carrément, quoi. T'en penses
c'est
quoi,
chouette.
Toi?
Eh ben, j'ai pas eu la chance de le faire et Ennio Morricone, je sais plus pourquoi je l'ai pas fait. Moi je trouve que c'est chouette parce que finalement il y a des musiques qui n'ont jamais été jouées en live, qui ont été jouées que sur studio.
Oui.
Et puis même je trouve ça assez fabuleux de se dire que même de faire vivre la musique d'un compositeur même qui est plus en vie, c'est une manière de d'être immortel.
Quand tu as composé tes morceaux, quelles images est-ce que tu avais en tête des images à mettre en musique? Et est-ce que c'est forcément, elles sont forcément imaginaires, ces images, quand tu as composé tes morceaux?
Mais en fait, je m'inspire de tout, du quotidien, et ça peut être de choses très futiles. Ça peut être une conversation, ça peut être un événement, ça peut être un morceau que j'ai découvert, ça peut être une manière d'orchestrer un morceau avec tel usage d'un instrument. Je dirais pas forcément que j'ai eu une image, c'est plutôt une expression d'une sensibilité ou d'un état, d'un moment, que d'une image que j'ai vue et que j'ai voulu retranscrire.
D'accord. Bon, allez, on va repartir en musique. On va aller à Paris pour un western. Un western in Paris. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Mais à chacun, voilà.
Voilà, une fois de plus, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Parce que quand même, western in Paris...
On peut se faire son film.
Exactement. Eh bien, on va se faire tout de suite.
Parce que c'est original, un western à Paris, on n'a jamais vu. Alors,
Surtout que moi, il y a des sons que j'ai retrouvés qui n'avaient rien à voir avec la musique de film. C'est Alan Parsons, tu vois, par exemple.
Ouais.
Avec le claquement de doigts. Un peu l'espagnol.
Les castagnettes.
Les castagnettes.
Les claquements de doigts.
Claquement de...
C'est les doigts en bois.
Alors, les doigts en bois, voilà. Eh bien, c'est... Je me dis, il l'a piqué. Ça me fait penser à Alan Parsons, qui n'a rien à voir avec la musique de film, finalement.
Mais tu sais, Castagnier, tu peux faire avec ta langue aussi.
Ça me fait penser aussi à des compositeurs, pas forcément de musique de film, même si Michael Field en est un, mais il a continué après. Il y a aussi Michael Field, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses
Michael Field.
Michael Field. Ouais, Mike Oldfield. Celui qui a écrit la musique du film Les Tubular Bells. Ouais. L'Exorciste, en 1973.
Ah, c'est trop récent pour moi.
C'est trop récent pour moi. Oui, c'est bien pour ça. Eh bien, voilà, il y a du Alan Parsons Project, du Alan Parsons et puis du Michael Field dans tes musiques, et tu le sais pas. Voilà, je te le dis. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à découvrir l'univers de Michael Field.
Je suis content de pouvoir découvrir des nouvelles choses.
Sa musique des années 70 ressemble tout à fait à ce que tu pourrais en faire. Voilà, en tout cas. Bon, maintenant, on va écouter Western in Paris. Initial MB. On peut le dire en français aussi, parce que non.
Tu dis comme tu veux.
Ouais, moi, je pense
tant qu'on peut reconnaître à peu près.
Tu dis tout en français. Voilà, même le titre de l'album.
Pour moi, c'est Initial MB, voilà. Parce que c'est Maxime. Hein.
Voilà.
Allez, Western in Paris. Western in Paris, Initials MB, alias Maxime, avec nous ce soir.
Maxime qui est fan des Girls in Hawaii aussi, on en a parlé. Là. Il était au concert à Fézin.
Ah bon?
Ah ouais. Ah bah. Vois, bah, un point commun.
Mais bon,
on s'est retrouvé, mais on s'est pas vu.
Voilà, on s'est pas vu là-bas.
Il n'est pas venu à la séance dédicace que tu avais faite après?
Bah non.
Ah ouais, ah oui, oui.
Bah non.
Ah ouais. Pour la prochaine fois.
La prochaine fois.
Bon, donc oui, on a oublié de parler des musiciens qui t'accompagnent dans cet album, quand même.
Ah. Et oui, eh bien, on va commencer par les femmes.
Oui.
Donc,
oui, parce que la flûte, c'est important, on n'en a pas parlé. Hein.
Et la flûte, il y a deux flûtistes, il y a Roxane Boucher et Léa Vigneault. Moi, il s'est trouvé que, voilà, je... Pourquoi il y en a deux? Bah, elles avaient chacune leur flûte à dire. Et oui, j'adore cet instrument. Il y a donc Sandrine Anard qui a fait les chœurs et qui me disait « Mais c'est l'album de la flûte ». Et en réécoutant, je me dis que oui, c'est pas faux. Mais la flûte est un instrument qui est assez utilisé sur la musique de film parce que c'est très, ouais, c'est très suggestif. Il y a plein de manières de... Enfin, autant ça peut être un instrument qui peut être percussif. On peut jouer de manière sec.
Mystérieux.
Et puis après, ça peut être doux. Et ça peut être tout ça à la fois, en fait, une mélodie. Pour la flûte et Sandrine au chant, enfin au chœur, qui participe d'ailleurs à la plupart, enfin sur tous mes albums, qui répond toujours présente, et c'est un bonheur de bosser avec elle.
Ouais, Thibaut au chœur également.
Voilà, Thibaut. Voilà.
Et puis à la batterie.
À la batterie, il y a un fidèle camarade de musique, Rémi Capriello.
Ben
donc,
oui.
Qui a joué avec tous les groupes de Lyon.
Oui. C'est vrai. Qu'on présente même plus. Hein.
Voilà, non, c'est un super batteur qui joue dans plein de styles différents.
Ouais.
Pas mal de groove music, de chansons. C'est le batteur, on va dire, actuel de Awa, de Da Break, enfin plus actuellement, Da Break. Il tourne avec une chanteuse française, comment elle s'appelle, Claire Days,
ouais.
Qui fait une belle pop.
Oui, on en parlait la semaine dernière. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai.
Et donc voilà, bah, à chaque fois, c'est un plaisir de faire des batteries. Avec, en fait, il vient faire les batteries et moi, je joue les basses.
D'accord. Alors, cet album se veut forcément en vinyle parce que c'est les 170, donc c'est forcément un vinyle, c'est ça?
Hein? Obligatoire. Sinon, c'était interdit.
Et c'est que en vinyle, de toute façon. Enfin. En numérique, oui, mais pas en CD.
Et voilà, non, il n'y a pas de CD, il fallait faire un choix. Et puis, on va dire la philosophie du label du Pop Club, c'est de sortir des vinyles parce que, ils ont cet amour de ce produit et de cette manière de consommer la musique. Et je suis très content. Enfin, c'est la première fois que je sors un album en format vinyle. Et je suis hyper content parce que c'est par ce format-là que j'ai découvert la musique. C'est là-dessus que est gravé mes musiques préférées. Enfin, sont gravées mes musiques préférées. Et donc, ça donne l'impression d'être un peu dans la continuité, tu vois, de ces, de ces modèles, de s'inscrire dans un peu l'histoire de la musique, en quelque sorte.
Retour vers le futur, ça.
Retour vers le futur.
Au futur du passé. Enfin, retour vers le futur. Ouais.
Et puis, l'écoute en vinyle, c'est une philosophie différente d'écouter la musique où on a tendance à écouter un album en entier, au moins la moitié, jusqu'au moment où il faut le retourner. J'ai beaucoup de plaisir et j'ai encore plus de plaisir en fait à écouter de la musique en vinyle depuis que j'ai finalisé cet album, parce qu'en fait c'est tout un travail en fait, c'est que tu vas faire tes morceaux et puis après sur CD tu vas réfléchir à ton ordre de titres et puis en fait sur vinyle c'est différent parce qu'il y a deux faces, tu vas réfléchir à comment tu vas répartir les titres en fonction des deux faces plutôt que juste sur une longueur de 12 titres. Tu vas aussi réfléchir à la longueur parce que finalement on est limité en durée sur un vinyle. Si tu
Plus c'est long, plus c'est compressé, moins c'est bon, quoi, c'est ça ?
Exactement. Voilà. Ouais, plus c'est long, moins c'est bon. Et voilà. Bon, ça, c'est pas forcément vrai de partout.
Non.
C'est... Voilà, donc le vinyle, il est dispo sur le site du Pop Club avec toutes les super références du label et ça vaut le coup d'aller faire un tour. Ouais.
Donc la pochette, la pochette, bah, un homme avec un couteau sanglant et une femme avec une carabine, une rivière rouge où on est en pleine montagne, ambiance polar ou thriller quand même.
Ça fait peur.
On est chez Bernard Minier là.
Oui. C'est moi qui ai dessiné cette couverture et je voulais que ça suggère un film d'espionnage, d'action des années 60 où il y a de l'action, effectivement. Voilà, on voit qu'il y a du sang, qu'il y a des revolvers, il y a une voiture, une vieille Jaguar type, et ça met tout de suite, je dirais que d'un coup d'œil, on sait à peu près où on est.
Bon, le recto. Là, il est beau ce recto, parce qu'en plus, il y a une explication de texte signée Romano Bianchi, un des pensionnaires du Pop Club Records.
Oui, un pensionnaire, voilà, exactement. Hein,
voilà, pensionnaire.
Oui, c'est un artiste du label qui a une belle plume et donc qui a fait une présentation de, sur, on va dire, les trois albums de Série de Velours. Il a fait une présentation des projets et c'est bien écrit. Il faut avoir le vinyle pour pouvoir le lire.
Non, on peut aller sur ton site. Il y a
un extrait.
Non, tu as une biographie très très bien faite. Rarement les artistes, franchement.
En fait, pour bosser
sur un artiste, il n'y a pas mieux. Hein.
Non, mais c'est vrai, c'est Romano qui a rédigé.
Tu parles du dernier album, mais moi je parle de ta bio en général. Hein,
mais alors, c'est pas moi qui l'ai rédigé. Hein, j'ai dû reprendre des extraits. Mais parce que, voilà, c'est pour dire que. Je veux dire, y a des artistes qui travaillent bien. Et
exactement.
Je veux dire,
il y en a d'autres moins bien là-dessus.
Tu peux passer du temps à faire des choses, mais si tu n'as pas le talent, le temps ne suffira pas.
Clin d'œil à qui ?
Ah non, mais...
À personne.
C'est une réalité. Et quand le talent s'exprime, ça fait du bien de le voir, le lire, l'entendre.
Exactement. Bon, est-ce qu'un jour, il y aura... Parce que bon, la musique, c'est aussi la musique vivante, donc... sur scène, Initial MB, Bang Bang sur scène.
Dans un monde idéal, si tu me dis tiens, il y a des musiciens qui veulent jouer avec toi et puis il y a une tournée avec 15 dates dans des salles sympas avec du monde qui vient te voir, j'y vais tout de suite. Monter un projet live, c'est toute une philosophie et donc embarquer des musiciens. Pour faire des concerts, on va dire, il faut leur proposer quelque chose d'agréable. Et voilà, moi, je fais de la musique instrumentale et c'est un format qui n'est pas forcément très vendeur en live.
C'est des concerts
sinon, c'est vrai qu'il y aurait l'option ciné-concert. Il y aurait des options. Plus le temps passe et plus mon envie grandit de monter un projet live. Donc, on verra. Après, on ne sait jamais s'il y a des auditeurs qui se ressentent dans ma musique, qui sont musiciens et qui sont partants. Ça peut aussi être une opportunité.
Sly et Thibaut sont toujours partants, non ? Non ? Non, je dis ça, je ne sais pas.
En fait, il serait partant. Non, il serait partant pour faire des séances studio par-ci et là, de manière ponctuelle. Et monter un projet live, c'est quand même un vrai investissement.
Ah, bah oui.
Et c'est du temps que tu mets au service d'un projet de quelqu'un d'autre. Thibaut et Sly, ils ont aussi chacun leur projet. Ils sont très actifs.
Oui. Très actifs. Oui, sans doute. Hein. Voilà. Pas assez à notre.
Tu aimes tellement leur musique que tu aimerais les entendre plus et les voir avec
les annoncer en concert plus souvent, et malheureusement, c'est pas souvent le cas. Mais ce soir, ce sera bien d'autres artistes qu'on va annoncer parce qu'il y a l'heure d'annoncer les concerts parce que l'heure tourne.
Magnifique.
Voilà. Donc, on va annoncer ensemble les concerts et puis si tu as un petit commentaire à faire, tu n'hésites pas. Tu vas annoncer le premier. Allez.
Eh bien, c'est facile. Périscope à Lyon.
Donc, d'abord la date, parce que c'est important.
Alors, le vendredi 12 janvier, c'est bientôt, c'est demain.
Et oui.
Au Périscope After Géographie avec Marlène Larsen. Et alors, ben, le petit mot, c'est que After Geography, en fait, ils ont sorti un mini-album en coprod sur le Pop Club, avec aussi le label de Danger House, le disquaire lyonnais.
D'accord. Ben, on les a diffusés il n'y a pas longtemps,
Antonio. Oui.
Allez, au relais Petite Enfance, le petit ratapon à jaunage dans le Rhône. Nos amis Théophile Hardy et Romain Lateltin louent Papa Poule à 18h.
À la vache rouge à Vénissieux, Zep 7.
Des reprises de
Led Zep.
Bah oui. À toi, toujours
mais
à toi.
Sympa. Ouais. Du coup, alors ça c'était tout vendredi. Hein. Voilà. On arrive à samedi 13 et janvier. Ouais. Salle du Vieux Temple, Charnay-les-Mâcon. Alors ça s'appelle Barzingo.
Barzingo, c'est la chanson française. Au Toy Toy à Villeurbanne, le cabaret spectacle gala du Grand Sucé, c'est pour vous dire, avec Madame les Enculettes, c'est Lily Lucas et Anne-Lise Roche, hein, et Pierre-Pierre, par exemple. Voilà.
Au Caspec Musique à Lyon, Puncha voilà. Et François Viro.
À la Péniche, Chalon-sur-Saône, Venin Carmin et Diamond Dog.
Le dimanche 14 janvier, un concert que vous n'avez pas, c'est au Bar Saint-Antoine à Mâcon, c'est Rimé et Xav.
À l'amphithéâtre, salle 3000 à Lyon, ce même jour, le dimanche 14 janvier, What Night of Queen.
À toi.
Mercredi 17 janvier, au Transborder, le groupe belge Soulwax, et que ça me donnerait presque envie d'y aller. Ils font de la musique, c'est électro, c'est ouais, tendance électro, très groovy. Ils font de la bonne musique.
Bien. Au Brise-Glace, Annecy, Venin Carmin et Cherry Pills.
Et le jeudi 18 janvier à La Rayonne, à Villeurbanne, Abat, Toxic, Holocaust et Hell Reaper.
C'est du métal. Ouais. Allez, on va terminer en musique avec un dernier extrait du dernier album de Initial MB's.
Bang Bang.
Alors, le dernier morceau de ce soir, Tonio.
C'est Goodbye Lazy.
Eh bien, on y va.
Par Initials MB. Thank you. Goodbye Lazy, un dernier extrait pour ce soir de l'album Bang Bang d'Initials MB.
Eh bien messieurs, il va être l'heure de se quitter. Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B d'Autermus des Prétentieux.
Eh bien merci, j'étais infiniment ravi de faire cette émission après 15 ans d'échanges de mails et de... Voilà. Et en fait, tu existes bien. Tu n'es pas l'intelligence artificielle qui a été créée. Non, tu existes en chair.
Mais oui.
Et chouette émission et tu l'animes super bien. Ouais. Super moment. Merci.
Rappelons que le nouvel album de ton projet solo Initial MB Bang Bang est sorti le 3 novembre 2023 sur le label Pop Club, le Pop Club Records. Notre ami Alex Cassimi que l'on salue. Alors comment peut-on se procurer ta discographie, que ce soit avec Initial MB mais aussi avec The Small Ties?
Ah ouais. Eh bien voilà. Alors donc le dernier album sur le site du Pop Club Records, mes projets solo de pop anglaise sur mon Bandcamp, donc Bandcamp Initials MB, Initials MB. Et puis The Small Ties, on va dire pareil, sur Initials MB, faut mettre un message parce qu'il reste quelques CD.
Voilà, bah oui.
Ouais.
Donc on te retrouve sur Internet, moi via ton site initial-mb.com et sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai que sur le site, j'ai pris le temps de faire un site où aujourd'hui, on va dire, il y a.
Mais complet.
Oui, voilà, en fait, on est un peu dominé par les réseaux sociaux et en fait, tous les contenus sont assez vite périmés.
Ouais, ouais.
Et ça peut être frustrant quand on veut diffuser des choses. Donc voilà, j'ai pris le temps de refaire un site, comme tu dis, simple, mais où il y a toutes les vidéos, liens pour le streaming, acheter le vinyle, les liens vers les podcasts. Donc finalement, c'est le bon endroit où aller si vous êtes curieux d'en savoir plus.
Voilà. Il y a bien qui ferait bien d'en prendre dans la graine. Et même, y compris ceux qui ont des sous.
Oui, Michel.
Je parle d'artistes, bien sûr.
Oui, bien compris.
Tonio, d'artistes bonsoir.
Qui ont des sous.
Enfin, qui ont plus de sous. Voilà. Enfin, qui ont bien plus de frais. Bref, on comprend. Voilà, quand on voit ce qu'ils proposent comme site internet, laisse tomber. Bon, Antonio, bonsoir.
Bonsoir, Michel.
Alors, si vous êtes jeudi, à 18h30, on retrouve rapidement la rediffusion de Romans de Gare. La semaine dernière, j'accueillais le romancier Charles Hiroux et Yann Botrel, dont le quatrième roman, Absinthe, l'affaire Gouffée, est paru le 4 avril 2023 aux éditions Gros Caillou. Mercredi prochain, le 17 janvier 2024, dans le magazine, moi, j'aurai l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir dans les studios de Radio B l'écrivain burgien de naissance et désormais francilien Antoine Renan, bien connu dans le monde du thriller depuis la sortie en 2019 de L'Empathie. Ça vous parle?
Non.
Mais ça donne envie.
Ah oui.
Non, mais c'est vrai.
Il présentera son quatrième roman, L'Empathie, tome 2, paru le 17 octobre 2023 aux éditions Robert Laffont. La semaine prochaine, nous rendrons hommage à l'un des héros de toute une génération. Je vais bien sûr parler de la mienne. Et un petit peu celle de Tonio. Il s'appelait David Saul, qui nous a quittés le 4 janvier 2024. Alors, si je vous dis Zebra 3, Lalo Schifrin, Kenneth Hutchinson ou David Richard Solberg, vous me répondrez
Michel Delpech.
On ne plaisante pas avec la musique de mon enfance.
Non.
Ah non.
Allez.
Ah non, je vois pas du tout.
Starsky Hutch.
Ouais, Starsky Hutch, mais il l'a pas connu, ça.
Starsky Hutch.
Si, ça me parle comme ça. Mais
bon, ouais, après, d'accord. Ça sera entre nous. On est entre nous là.
Excusez-nous. On est trop vieux là.
Trop bon. Donc, et la musique aussi nous aura marqué parce que la musique de Starsky Hutch, forcément, tu l'as déjà entendu quelque part. Et puis c'est signé Lalo Schifrin.
Oui.
Voilà. Et comme tu dis si bien, Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur les 90.0
de Radio B.
Maxime, bonne continuation.
Merci.
Bonne composition, puis à bientôt sur Radio B, parce que maintenant que tu es venu une fois, il faut qu'on remonte dans le temps, on a plein de choses à se raconter. On va rattraper le temps perdu, mais il y en a à récupérer. Bonne soirée.
Merci, bonsoir.
Salut à tous.